Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Alors cette semaine, on chamboule un petit peu notre planning. On avait prévu de parler d'un autre film, mais l'actualité aidant, en fait, nous avons décidé de rendre un dernier hommage à Joël Schumacher, un réalisateur qui a quand même, mine de rien, quoi qu'on en pense, pas mal... servi en fait, enfin notre cinéphilie depuis des années, quoi. Et c'est en tout cas un nom qu'on connaît bien. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas pour en parler. Salut Arnaud.
Salut Stéphane.
Voilà. Et alors on va en direct de Nice, en duplex, hein, comme on dit dans le jargon. Voilà.
Toi, t'es à Cognac G, c'est ça?
À Cognac G, exactement. Quoi. Et en fait, on va parler d'un film spécifiquement. Ça ne va pas forcément être un hommage général à la carrière de Joël Schumacher, mais vraiment d'un film particulier qui, je pense, est celui, on est tombé d'accord, qui s'inscrit le plus dans ce que Steroids représente, en fait, et c'est Chute libre, un film qu'il a réalisé en 1993 avec Michael Douglas. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est son film le plus connu, j'ai l'impression, à part les Batman, évidemment, pour lesquels il est très décrié. Quoi. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, Arnaud, est-ce que tu peux résumer vite fait Chute libre?
D'accord, ouais, Falling Down, le titre original, est réalisé quand même en 92, on va en reparler, mais parce que c'est important. Oui. Il est sorti en 93, mais il a été réalisé en 92. C'est vrai que quand on en a parlé, ça nous a semblé son film le plus... son meilleur film, tout simplement. Après, ça serait mentir de dire qu'on est des fans de Joël Schumacher, hein. Mais moi, j'aime beaucoup ce film. C'est un film quand même assez intéressant. L'histoire, en gros, c'est celle d'un personnage interprété par Michael Douglas qu'on appelle D-Fence, c'est le nom de sa plaque d'immatriculation, dans le film, qui est un monsieur tout le monde, un petit peu, qui a bossé, d'où ce surnom, au ministère de la Défense, enfin, en tout cas, dans l'armement, et qui s'est fait virer. Et qui représente un peu ce monsieur tout le monde de l'époque, là, du début des années 90, et qui, au cours d'un embouteillage, va complètement riper, va sortir de sa voiture, et avec une idée en tête, celle de rentrer chez lui. Et en l'occurrence, chez lui, c'est chez son ex-femme pour l'anniversaire de sa fille, quoi. Tous les gens qui vont se mettre en travers de lui, en travers de son chemin, plutôt, il va les traiter de manière... plus ou moins violente, quoi. C'est-à-dire, c'est un citoyen comme les autres qui perd les pédales, quoi. Et puis qui se retourne contre la société qu'il a jusqu'ici suivi pas à pas, on va dire, en s'imaginant qu'il faisait les choses convenablement.
Tel qu'on lui les avait demandé, en fait.
Voilà. Et il se retourne donc contre cette société. Et donc, c'est, pour terminer, c'est le à l'échelle d'une journée, hein. C'est le prétexte à faire une sorte de portrait en coupe de Los Angeles à travers et donc de l'Amérique de cette époque-là à travers ce personnage, quoi. Ouais.
Et alors le truc, c'est que alors là, tu as résumé le pitch d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est vraiment un film, en tout cas celle qu'il a été vendu à l'époque, je me souviens bien, en fait un peu couillu dans le sens où en fait c'était un film qui s'attaquait à beaucoup de travers de la société de consommation, le racisme, les gangs. Enfin, tout un tas de trucs en fait qui étaient effectivement problématiques aux États-Unis à ce moment-là, et c'est en ça qu'il y a pas mal de gens en fait. Alors, le film a été un peu décrié quand il est sorti, hein, mais aussi j'ai l'impression que c'est en ça que les gens se sont
et
pas mal.
Et risque de l'être encore de nos jours. Hein.
Oui. Après, on va débattre parce que c'est vrai que toi t'aimes beaucoup le film et moi je suis un petit peu plus réservé. Je pense que c'est son film le plus intéressant, clairement, à Joël Schumacher. Alors toi tu dis Schumacher, mais moi je dis Schumacher. Je sais pas exactement comment on dit.
Ouais, je pense que la prononciation... Il avait un père allemand, hein, donc c'est clairement un nom d'origine allemande, quoi. Schumacher, hein, on prononce en allemand, mais bon, les Américains, ils prononcent Schumacher, normalement.
Ah oui. C'est clairement pour moi son film le plus intéressant. Éventuellement, si on met de côté aussi, moi j'avais une petite affection pour 8 mm, mettre, que je n'ai pas revu depuis très longtemps, donc faudrait peut-être, ça mériterait peut-être qu'on se replonge dessus, quoi.
Bon, qui est un film complètement différent. Hein. Pour moi, c'est de la grosse exploitation de studio, quoi, 8 mm. Mais je suis assez d'accord avec toi, il y a un côté un peu... Puis bon, quand on est fan de Nicolas Cage, c'est un peu un plaisir coupable aussi, ouais. Le film, on va dire.
Mais là, en fait, ce qui était arrivé à l'époque, c'est que donc le film a été décrié, mais je pense que c'est aussi un film sur lequel pas mal de gens se sont retrouvés justement à travers. C'est-à-dire que la bande-annonce, elle était quand même vendue sur des points assez cocasses du film. C'est-à-dire, par exemple, il y a la scène où il va dans le McDo, enfin le coin fast-food, je sais plus comment ça s'appelle.
Whammy Burger, voilà. Je crois.
Où il se fout de la gueule de l'hamburger qu'il a dans sa boîte finalement, au lieu de, en comparaison avec ce qui est vendu sur la plaquette, c'est dans le menu, quoi. Voilà, je pense que c'est tout un tas de trucs qui font que les gens se sont retrouvés là-dedans, et que finalement, mine de rien, le film est quand même resté aujourd'hui, en fait, presque 30 ans après sa sortie, quoi. Je sais pas si le terme culte est vraiment approprié, mais je sais
ouais,
que...
culte... Mm-hmm. Ouais, vas-y, finis.
Non, mais je sais que, en fait, disons que... je dis culte, c'est un terme un peu fort, mais disons que... Voilà, enfin, Joel Schumacher, je vais dire ça comme ça, moi, c'est quand même un réalisateur décrié, et notamment, en fait, il y a des fans de Lost Boys, par exemple, Génération Perdue, voire même de L'Expérience Interdite, mais surtout décrié depuis les Batman, en fait, Batman Forever et Batman et Robin. Et du coup, le fait que ce film qui a été fait juste avant et qui apparemment, en fait, a permis au réalisateur d'avoir justement la franchise la plus juteuse de Warner à cette époque-là, en gros, c'est étonnant qu'il soit allé le chercher déjà pour ça, pour Chute Libre, en fait, si tu veux, pour ensuite le mettre dans Batman, alors que c'est quand même deux projets et deux films totalement différents. Ils se sont dû se dire il y a un point vigilante, tu vois, quelque part à faire, mais surtout, en fait, malgré en fait la très mauvaise presse de ces deux Batman, le film est encore là, le film reste encore là, y compris pour les cinéphiles, en fait, ceux qui ont peut-être un peu plus de mal avec le reste de sa carrière, quoi. Ouais. Et toi, en fait, bon, rentrons un peu dans le détail du film. Qu'est-ce qui te plaît vraiment, toi, dans le film?
Je réponds à ta question et en même temps je reviens sur ce que tu dis, hein, sur ce que tu viens de dire. Moi, je sais pas si j'emploierai le terme culte, tu vois, mais c'est clairement en tout cas un film qui est rentré de manière iconique dans la culture pop, quoi. C'est-à-dire, on l'a retrouvé. Il y a eu des allusions. Toi qui es fan des Simpsons, moi je m'en rappelle je crois qu'il y a eu un épisode quasiment entièrement là-dessus où Homer reprenait plus ou moins le rôle de Michael Douglas. Il y a eu des chansons, des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de choses. Et c'est
vrai. C'était pas Homer. Hein, je crois qu'il était en face à un personnage à la Michael Douglas justement.
Oui, voilà. Ouais peut-être. Hein, ouais. Et donc c'est un film. Tu parlais de la scène du Whammy Burger, mais moi c'est vrai que je pense que tout le monde depuis ce film, tous ceux qui ont vu ce film, quand ils sont rentrés dans un fast-food à l'heure où c'était plus le petit déjeuner, ils ont pensé à cette scène, quoi. Tu vois, quoi. C'est et parce que ça réveillait, comme tu le disais très justement, ça réveillait des choses auxquelles les gens étaient, des frustrations auxquelles les gens étaient confrontés journellement dans leur évolution au sein de la société de consommation. Et alors moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que c'est un film à travers son héros ou plutôt son anti-héros, Defense. C'est un film qui nous montre le parcours de cet homme-là et prend le soin de nous faire de faire en sorte que le spectateur s'y identifie. Et donc, à travers toutes ces frustrations, il y a même des moments où ça va assez loin. Et c'est pour ça que je disais que je pense que le film créerait problème, ou va peut-être même créer problème quand on va en reparler d'ici peu. Toi, c'est qu'il y a deux, trois scènes dans le film. Par la mise en scène, par la narration, simplement ce qui est écrit, la musique de James Newton Howard aussi, où le personnage est traité de manière héroïque, quoi. Ça dure pas longtemps, hein, mais c'est par exemple quand il arrête le chef des gangs, là il lui sort, il lui tire une balle dans la jambe et puis il s'en va au milieu des gens qui affluent au milieu de l'accident de voiture, hein, et la musique monte, il vient de lui sortir une réplique bien badass qui claque. Il y a aussi la scène où vers la fin où il approche du chantier. Sur lequel il va tirer au bazooka, là, C'est pareil, il y a une scène un peu en contre-plongée comme ça où il arrive avec la musique qui monte, et plus toutes ces petites scènes, comme je disais, celle du fast-food. Je crois qu'au moment où il arrive sur le chantier, il met un nion à un automobiliste qui est en train de gueuler, de vociférer sur une femme devant lui comme un gros porc, quoi. Et il a des moments héroïques comme ça où il représente, enfin où on montre, en tout cas, on fait ressentir au spectateur la manière dont se vit le personnage, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en guerre contre la société parce que la société l'a lâché, la société a lâché son peuple et il se rebelle contre ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que après on ne nous épargne pas non plus les meurtres qu'il fait, la façon dont il s'attaque aux gens, les trucs comme ça. Mais c'est ça qui fait qu'à la fin, bon, on va spoiler un petit peu, mais même si c'est pas la toute fin, mais qui dit au lieutenant de police incarné par Robert Duvall, là, il lui dit, mais alors c'est moi le méchant, quoi.
Mais moi justement, ça fait partie des problèmes que j'ai avec le film, c'est-à-dire que en gros, alors peut-être pour reprendre un peu tout ce que tu dis et résumer. Je pense qu'on peut dire que c'est un film qui s'inscrit dans un genre spécifique, dans un sous-genre spécifique, qui est le genre du vigilante movie. Pas comme on l'entend, c'est-à-dire chez Charles Bronson, chez Michael Winner, hein, dans Death Wish par exemple, dans Le Justicier dans la ville.
Sans compter, juste une petite parenthèse, Steph, mais sans compter que le personnage de néo-nazi joué par Frédéric Forrest, là, du surplus militaire, il lui dit, Defense lui dit, je suis pas un vigilante.
Mais justement, en fait, voilà. Je veux revenir à cette scène et pas seulement cette scène d'ailleurs, mais voilà. Et le truc, c'est que c'est un vigilante, mais c'est un vigilante de tous les jours. C'est-à-dire que plutôt que de s'attaquer à des malfrats dans la rue, en fait, il va s'attaquer aux gens qui nous cassent les couilles, quoi. Pour le dire clairement, quoi. Tout ce qui nous casse les couilles et tout ce qui est source de frustration, parfois même grandissante, ce qui fait qu'effectivement, on peut compiler tout ça et à un moment donné, péter un boulon comme ça peut éventuellement arriver à pas mal de monde, quoi. Le truc, c'est que ce qui est problématique pour moi dans le film, c'est deux passages. Il y a cette idée que d'abord, il est détraqué, c'est-à-dire qu'il est, comment dire, il a des problèmes psychologiques, quoi. De base, c'est-à-dire avant même tout ça, c'est-à-dire que il a déjà un problème dans la tête, ce qui pour moi désamorce énormément des choses qu'il fait, puisque fondamentalement, en fait, on peut mettre ça sur le compte non pas de la frustration et du fait de se mettre en garde contre la société, mais tout simplement du fait que c'est un type qui a un passif violent, qui a un comportement erratique et qui a apparemment des problèmes psychologiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on le met face à pire que lui, en fait. C'est-à-dire avec ces scènes de Frédéric Forrest où il se retrouve en fait dans un surplus militaire. Il essaye d'acheter, je crois, des pompes ou un truc comme ça. Enfin,
des vêtements militaires. Hein.
Et en gros, il se retrouve en face du propriétaire des lieux qui est ouvertement homophobe, ouvertement raciste, ouvertement facho et ouvertement nazi, puisqu'en fait, il lui montre carrément voilà. Donc, tu peux pas faire pire de chez pire, en fait, quelque part, comme personnage, quoi. Et le type lui dit, t'es comme moi, en fait. Et l'autre, il lui dit, bah, je suis pas comme toi. Et en gros, je trouve que cette scène, en fait, le problème que j'ai avec cette scène, c'est que c'est une scène en fait qui non seulement justifie les actions du personnage, c'est-à-dire du personnage de Michael Douglas, mais en plus, en fait, le défausse complètement de ce qu'il, de ce qu'il fait au final. C'est-à-dire que, en fait, en gros, c'est pas tant qu'il les justifie en termes idéologiques, c'est que justement, en fait, il dit. En fait, comme je suis pas comme toi, je peux me permettre de faire ce que je fais. Mais en même temps, en fait, le type est quand même fou. Donc du coup, c'est un peu bizarre, je trouve, en fait, d'avoir cette scène au milieu. J'ai l'impression que c'est de la justification. C'est plus la justification de Schumacher et du scénariste éventuellement que même du personnage de Michael Douglas. C'est en ça que je trouve que le film se défausse un peu du coup de ce qu'il essaye de faire, quoi. J'entends, c'est-à-dire à la fois par les problématiques psychologiques et à la fois par cette scène où le type de toute façon en plus le violente, hein, donc en fait quelque part quand on regarde cette scène, certes il passe à l'acte, on spoil, hein, Michael Douglas passe à l'acte et le tue, mais en fait c'est de la légitime défense, donc c'est un peu étrange, je trouve, comme...
Je pense que justement, moi cette scène-là je le prends comme un bon moyen de pouvoir dire, de pouvoir maintenir l'identification du spectateur et pour au final, parce que c'est quand même un film très amer, hein, sur sa fin, quoi, pour au final le dire que c'est quelqu'un qui s'est égaré, quoi, en gros, quoi, qui a fait fausse route, quoi. Ouais. Mais à cet instant-là du film, Il est encore important de garder le lien avec le spectateur et le fait que le spectateur s'identifie à lui. Bon, après, je sais qu'il y a un truc qui, moi, je trouve, fonctionne peut-être à un niveau symbolique, tu vois, mais en fait, la personnalité du film, la manière dont le film s'est incarné à l'écran, a pas forcément maintenu ça de manière hyper évidente, mais je sais que le scénariste avait dit après la sortie du film qu'en fait oui il y avait des problématiques sociales qui étaient soulevées et tout, mais qu'en gros le gros thème du film c'était que ce personnage représentait Defense, donc tu vois il a travaillé et puis son look tu vois tout quoi, il représentait le monde d'avant en fait quoi. Bon, ce qui peut paraître un petit peu cocasse, parce que alors c'est vrai qu'il faut quand même placer un peu le film dans son contexte, c'est-à-dire c'est un film qui a été tourné, ça se sent, pendant les émeutes de Los Angeles quoi, tu vois, en 92. C'est un film dont la production a pâti de ça. D'ailleurs, ils ont dû s'interrompre à un certain moment, tout ça. Bon, mais
bon, après ça a été 5-6 jours. Hein.
Oui, oui, mais quand même quoi, tu vois. Je veux dire, il y a une sorte d'atmosphère de guerre civile dans le film. Mmh. La bande son est très chargée. Par exemple, il y a souvent que ça soit les bruits d'hélico qu'on entend autour de Defense quand il avance dans la rue. Il y a tout le temps des bruits d'hélico en fond. La musique de James Newton Howard qui prend des airs un peu martiaux à certains moments avec des roulements de tambour très militaires, tu vois. Donc il y a un côté comme ça guerre civile qui est entretenu en filigrane, on va dire quoi. Et donc oui, bon, je disais juste, je trouve ça un petit peu cocasse la phrase du scénariste, parce que c'est vrai que en soi, c'est un film qui ouvre l'ère Clinton et qui est peut-être c'est ça qui signifiait, parce que c'est quand même un film fait par des démocrates, tu vois, c'est un film démocrate et qui signifiait une ère nouvelle. Bon, après, quand on a lu, déjà avec le recul de l'histoire maintenant, hein, c'était il y a 30 ans, et puis quand on a lu des auteurs comme Noam Chomsky ou William Bloom, on sait que cette ère qui a commencé à cette époque-là, ça a été une des plus guerrières de l'histoire des États-Unis, quoi, tu vois. Donc,
ils n'étaient pas censés le savoir dans la logique des choses à ce moment-là. Mais...
Certes, mais c'est pour ça que je dis que c'est cocasse à posteriori. Quoi, tu vois, voilà.
Non, mais bon. Le fait de représenter le monde d'avant, comme tu dis, c'est clairement explicité dans le film. C'est-à-dire qu'au-delà même du look du personnage, quand il rend visite à sa mère, la façon dont elle le décrit, c'est qu'elle dit qu'il a toujours fait son travail a toujours été de nous défendre contre les communistes. Donc là, on parle clairement de la guerre froide, on parle clairement de ce genre de choses.
Et moi, je trouve d'ailleurs là-dessus, il y a un casting très intelligent avec. Moi, c'est pas un acteur dont je suis rat-dingue, hein, loin de là, Michael Douglas. Mais je trouve très bien de l'avoir mis là-dedans parce qu'en fait, c'est un personnage qui. Bon, Michael Douglas, il était plutôt catégorisé dans des rôles d'alpha mâle, au charisme un peu animal, tu vois. Il sortait de Basic Instinct à l'époque, il y avait eu Liaison Fatale avant, tu vois, tout ça. Mmh. Et l'enfermer. Le cadenasser comme ça ses pulsions animales dans un uniforme, quoi, tu vois, une armure, là, presque, qui est ce costard cravate avec ses lunettes carrées, la coiffure en brosse, tu vois, tout ça. Je trouve ça très malin parce que ça d'entrée, ça laisse sourdre un petit peu ce qui boue dans ce type-là. Bon, en même temps, Michael Douglas, il faut juste préciser qu'il était pote avec Schumacher depuis longtemps. Je crois qu'il me semble.
Schumacher, il est pote avec tout le monde. En fait, ce qui est ouf, en fait, depuis hier, donc qu'on a appris qu'il est mort, il y a énormément de dommages en fait qui se sont rendus. Et tu te rends compte en fait qu'il y a un paquet de gens avec lesquels il n'a pas forcément tourné, hein, d'ailleurs, mais avec lesquels il a pu travailler sur des projets qui se sont développés, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte, même en lisant lui ses interviews de l'époque, hein, de même il y a encore un an, il a fait une interview notamment, je crois, dans Vulture. Il avait donné une interview l'année dernière. Et tu te rends compte, qu'il est vraiment pote avec tout le monde, quoi. C'est-à-dire que en fait,
il était pas mal l'interview, mais bon, ça parlait beaucoup de cul, quoi, et pas assez de cinéma, je trouvais. Quoi.
Oui, oui. En plus, je pense que le truc qui est assez marrant, c'est que il est pas du tout, c'est-à-dire, il est quand même un peu langue de bois sur tout ce qui concerne les stars et les vedettes avec lesquelles il a tourné. Par exemple, alors qu'il a été assez véhément vis-à-vis de Val Kilmer. À l'époque de Batman Forever, après, au moment où ils ont engagé George Clooney pour Batman et Robin, là, il n'en parle pas du tout, quoi. C'est-à-dire, il reste vraiment dans les clous pour pas dire quel était le problème. Donc voilà, et Tommy Lee Jones, c'est pareil. Ouais. Donc,
après, oui, c'était un mondain, hein. Il s'en est jamais caché, d'ailleurs, il l'a toujours dit, quoi, tu vois, c'était quelqu'un qui a, depuis les années 70, il a commencé dans la mode, dans les costumes de films. Après, je crois que c'est à cette époque-là qu'il a connu Michael Douglas sur la série Les Rues de San Francisco, d'ailleurs. C'était un mondain, mais après, ce qui revient souvent beaucoup dans la bouche des gens qui l'ont connu, c'est que c'était quelqu'un de brillant. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais McTiernan nous en avait parlé. Mmh. Il nous avait dit que c'était quelqu'un de très intelligent. Et c'était même, je crois me souvenir, un de ses rares amis au sein du dans le milieu, quoi, parmi les réalisateurs, il avait dit McTiernan à l'époque. Donc je pense que c'était quelqu'un, ouais, que, surtout pour un ours comme McTiernan, hein, qui était à l'opposé total d'un Schumacher, c'était tout sauf un mondain, quoi, lui, à l'époque. Donc je pense que ça dit beaucoup de ce type qui pouvait être à la fois superficiel, mais en même temps quelqu'un, je pense, d'attachant, quoi. Et,
Ah ouais, mais je pense que, en fait, c'est même, je pense, une des raisons pour lesquelles on a décidé de chambouler un peu notre planning et de traiter ce film en podcast. C'est-à-dire que malgré tout, en fait, y compris des fois pour aller voir quelque chose d'un peu différent, en fait, on allait voir en fait les films de Schumacher à l'époque. C'est quelqu'un qui a compté mine de rien dans notre cinéphilie, même si c'est par défaut, on va dire, c'est-à-dire au sens où on délirait pas forcément sur son cinéma, quoi.
Mais jusqu'à dans les années 80-90, moi je me rappelle, et ça doit être ton cas aussi, j'ai vu tous ces films en salle, quoi. Tu vois,
ouais, à peu près. Mais et d'ailleurs, en fait, c'est alors le truc avec le film, c'est que mine de rien, il allait toujours un petit peu dans ce genre de sujet-là, en fait. C'est-à-dire pour revenir sur Chute libre, des films comme, enfin, des questionnements entre guillemets politique sur et de société, en fait, sur la façon dont l'Amérique fonctionne, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, il a adapté des films de John Grisham, des bouquins de John Grisham, pardon, et notamment Le droit de tuer et ce genre de choses. Donc
le droit de tuer,
point d'interrogation, ouais.
Voilà, le titre français avec un point d'interrogation. Ouais,
mais voilà, je pense que c'est un peu un souci que j'avais aussi avec lui dans l'absolu, c'est que c'est quelqu'un qui, à mon sens, n'allait pas forcément jusqu'au bout de la démarche. Et c'est un peu le souci que j'ai avec celui-là, même si c'est pour moi clairement son film le plus intéressant, le plus intrigant, le plus soigné aussi, à mon sens. Hein, c'est vraiment le film le plus soutenu. C'est-à-dire que, à défaut de considérer voilà, que je suis complètement pris par le truc, il faut au moins reconnaître qu'il dépeint Los Angeles tel que ça l'était à l'époque, j'imagine, quoi. C'est-à-dire qu'en tout cas, il en ressort ce sentiment général, quoi.
Et ah, c'est, oui, oui.
Je t'en prie, vas-y.
Ouais, non, mais c'est clairement, moi je sais que c'est un film où il y a, c'est un plaisir de voir ça, parce que c'est un vrai film tourné entièrement à Los Angeles, ça se sent, ça se voit, le paysage et la ville sont vraiment exploités, quoi. Moi ça fait partie des films de cette époque-là auxquels je pense directement quand on évoque Los Angeles dans les films hollywoodiens, tu vois. Mais après je pense que cette facture aussi, c'est un film qui a coûté quand même 25 millions de dollars à l'époque, ce qui est un gros budget pour un film comme ça, c'est-à-dire un drame urbain, un thriller urbain, quoi, en gros.
Et tourner sur place, hein.
Et tourner sur place. Ça, c'est aussi grâce à Michael Douglas, parce qu'en fait, c'est lui qui a porté le projet, qui s'intéressait au script. Le script a pas mal tourné, je crois. Et puis, c'est lui qui l'a vu et il a trouvé que c'était un des meilleurs scripts qu'il avait jamais lu. Il a voulu faire le projet. C'est lui qui a amené Joel Schumacher sur le projet. Et c'est lui aussi... donc, grâce à lui, forcément, le budget a été beaucoup plus gros que prévu. Parce que encore une fois, il sortait de plusieurs gros succès. Là, Michael Douglas, à l'époque, il était au top.
De toute façon, c'était une énorme star à l'époque, oui.
Ouais, voilà. Mm. Et c'est aussi grâce à lui qu'il y a cette facture visuelle assez classe et spectaculaire. Parce que il a accepté de toucher de lui-même un tout peu. Bon, c'est le producteur aussi qui parlait. Là, il est pas producteur sur ce film, je crois, mais c'est un producteur, Michael Douglas. Il a accepté de prendre un tout petit salaire pour pouvoir mettre le budget à l'écran, quoi. Donc voilà. Au bout du compte, c'est vrai qu'on se retrouve avec un film assez assez impressionnant visuellement, techniquement et tout pour un film sur ce sujet-là de cette époque-là, quand même.
Et puis qui tient la route encore aujourd'hui, c'est-à-dire que Joël Schumacher, ça a toujours été un esthète, hein, quelque part. Il a toujours eu un fonctionnement comme ça. Il a toujours abordé ses films comme ça. Et moi, je trouve que par exemple des films comme Génération perdue, Batman Forever, c'est des films qui ont un petit peu vieilli sur ce point-là, en fait. C'est-à-dire que c'est des films qui, je dirais pas qu'il expérimentait, hein, mais en tout cas, il poussait le style un petit peu. Il y a, Il y a aussi l'expérience interdite. Alors là, c'était une photo de Yann de Bont, je crois, si je dis pas de bêtises, mais qui était un petit peu plus soignée aussi, quoi. Mais celui-là, en fait,
très fluo, très flashy, l'expérience interdite.
Oui, mais très, comment dire, fin, on va dire entre guillemets, dans justement ce genre de voilà, ce qui n'était pas tout à fait le cas, je trouve, de Batman Forever.
Par ouais.
Et pour voilà, mais c'est plus fin, on va dire, dans l'expérience interdite. Il y a plus le sens esthétique est un peu plus poussé, je trouve. Mais disons que sur Chute Libre, en fait, le fait que à la fois, par exemple, c'est le chef op du film, c'est un chef op qui est quand même un peu moins talentueux qu'Yann de Bont, hein, c'est Andrew Bartowiak sur Chute Libre. Mais
bon, après Bartowiak, ça a été quand même un grand chef op à l'époque où il bossait pour Sidney Lumet. On va dire qu'après, c'est dans les, justement vers cette époque, un peu après Chute Libre, là, qu'il a commencé à
un meilleur chef op que réalisateur, tu veux dire.
Oui, oui, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il s'est un peu conformé à ce qu'on lui demandait, quoi. Mais à la base, c'est quand même un bon chef-op, le mec, quoi.
Mais je pense que l'un des gros intérêts du film, c'est voilà, c'est le fait de tourner sur place dans les décors avec, je dirais pas en lumière naturelle parce que c'est pas le cas, mais en tout cas avec justement l'idée de capturer en fait ce moment-là. Et mine de rien, ça fonctionne. C'est ça qui fonctionne bien. Moi, l'autre point, peut-être un petit peu, je trouve, dans la démonstration, c'est en fait, c'est un film qui est agréable à regarder. C'est-à-dire ça, il faut reconnaître. On l'a revu tous les deux hier soir, hein, avant d'enregistrer, pour se le remettre bien en tête. C'est un film qui est agréable à regarder, mais je trouve que c'est un film qui manque un petit peu de finesse dans sa démonstration. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être un bien grand mot, voilà, mais par exemple, si tu veux, l'un des soucis que j'ai, c'est que chaque personne sur lesquelles il va tomber, si on sort éventuellement du cadre du personnage de Robert Duval, hein, qui est le flic qui lui court après, et éventuellement de sa partenaire, Rachel Ticotin, tous les autres persos sur lesquels il tombe, c'est tous des cons, quoi. C'est tous des crétins ou des cons. Et en fait, du coup, ça c'est un petit peu, comment dire...
C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on nous... C'est comme
ça manque de subtilité, quoi.
Je pense que c'est des personnages, c'est comme ça qu'il les voit, lui. Mais après, c'est quand même un peu plus... Je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai quelque part, hein, mais c'est pas systématique non plus. Je veux dire, il y a des très belles scènes. Moi, je sais que la scène avec le noir là qui est habillé exactement comme lui d'ailleurs, hein, qui a la même cravate, tout, et qui est dehors et qui fait ce discours devant la banque qu'il a viré.
Parce que c'est un look de salaryman.
Voilà,
en fait,
voilà. Ouais, mais je pense que c'est pas innocent s'il a exactement les mêmes motifs de cravate. Ouais. Tu vois, c'est une sorte de double. Et t'as ce très beau plan à la fin où en fait le personnage est devant la banque qu'il a viré et manifeste en disant on m'a dit que j'étais pas économiquement viable, tu vois. Donc ça parle aussi à notre époque, quoi, ça, ce genre de scène. Mais des flics arrivent et l'emmènent, en fait, et dans la voiture il passe devant Defense et il lui dit par la fenêtre: ne m'oubliez pas, quoi. Et Defense lui fait oui de la tête comme ça, tu vois. Donc ça dépend, il y a des personnages avec lesquels il fusionne, il y en a d'autres avec lesquels c'est le clash total. C'est vrai que le summum, je crois, c'est de gros abrutis, ça doit être le vieux qui joue au golf, hein.
Bah oui, mais en fait, il y a ça, il y a le sans-abri, en fait, qui lui dit donne-moi à manger, ça fait 5 jours que j'ai pas mangé, alors qu'il a un burger dans la main, tu vois. C'est des trucs où tu te dis, mais c'est qui ces persos, quoi. C'est-à-dire même en poussant loin, je trouve que en fait c'est des caricatures, si tu veux. C'est ça le souci que j'ai un petit peu avec on va dire le manque de subtilité, alors qu'en fait
je serais pour un grand
décrassage, hein, sur ce genre de personnage. C'est pas ça le problème, en fait. Je au contraire, c'est même, je pense, l'une des raisons pour lesquelles on regarde ce genre de film, hein, pour être un peu honnête. Mais voilà, mais après le souci, c'est que je trouve que en fait il aurait gagné à être un peu plus fin là-dessus, subtil là.
Moi, je te dis, ouais, bon, je prétends pas que c'est de la subtilité, hein, tu vois, et puis, en l'occurrence sur ces scènes-là, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois dans le film, que je le prends, quoi. C'est qu'il y a besoin, par exemple, le sans-abri, là, effectivement, hein, ce que tu dis, il est totalement caricatural, tu vois, et tout. C'est un gros branleur, en fait, le mec, quoi. C'est une sorte de junkie, là, qui traîne dans un parc. Mais le spectateur a besoin de voir ce personnage comme le voit Defense à ce moment-là, tu vois. Après, encore une fois, moi je trouve que au fur et à mesure que le film avance, il y a un peu de tout, tu vois. Il a cet échange avec ce gamin là qui lui apprend à tirer avec une scène qui est très ironique, tu vois, qui lui apprend à tirer avec le bazooka là sur le chantier, quoi, tu vois.
Mais ça c'est pareil, c'est une scène qui est un peu étrange parce qu'on se demande si en fait l'idée c'est de critiquer un petit peu les films d'action de l'époque, quoi.
Non, moi je.
De dire en gros, le gosse, en fait, il voit un bazooka, il est même pas étonné, il se dit que c'est un tournage de film et en fait, il trouve ça super cool, quoi.
Ouais,
alors
mais...
qu'en fait, les mecs, ils font péter la moitié de la rue, quoi.
Le truc, c'est que moi, je pense encore une fois, je sais pas s'il y avait ça, hein, peut-être le scénariste, une fois de plus, il avait voulu y mettre quelque chose, tu vois. Mais moi, ce que je vois dans la scène, en tout cas, c'est que c'est une scène qui est faite pour créer une sorte de ouais, de trucs bizarres, comme tu disais, de sentiments paradoxaux. Et en fait, Defense écoute le petit garçon qui lui dit comment faire fonctionner le bazooka. Mmh. Et à la fin, quand il tire et que ça explose, et que le petit garçon fait « Yes, ouais, mortel !» et tout, quoi. Là, t'as Defense qui le regarde et qui est désemparé, en fait. Et qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Il sait plus où il est. Et à ce moment-là du film, il commence sérieusement à être paumé, quoi, en fait, quoi. Et, c'est-à-dire, il s'est rebellé contre certaines choses, mais il voit que tout n'est pas blanc ou noir, tu vois. Et peu à peu, il va aller vers, de toute façon, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, t'as sa névrose qui prend de plus en plus le pas, quoi, tu vois. Et à la fin, ça se termine, il est carrément, enfin, à la fin, c'est une sorte de fou que Robert Duvall essaie d'arrêter, quoi, tu vois. Moi, je voudrais dire juste un petit mot rapide d'ailleurs sur Robert Duvall et sur son Robert Duvall. Je le trouve formidable dans ce film, quoi. Son personnage est très beau. C'est un très beau personnage de policier. Ils en ont pas fait un flic. Alors, c'est censé être un reflet aussi de Defense, tu vois, quoi. Mais qui est là pour montrer aussi que ben les épreuves de la vie, tu peux choisir de les affronter différemment, tu vois. Voilà. Bon. Mais le personnage est c'est un vrai personnage de type humain profondément bon qui se coltine le mépris malgré ça de ses collègues et qui essaie de gérer la...
qui sont comme la plupart des personnages dans le film, donc des cons.
Ouais.
C'est ça le truc, c'est-à-dire que voilà, il y a son personnage, son supérieur, c'est un con, ses collègues, c'est des cons.
Bah, c'est-à-dire ça, ça fait partie, je pense, de cet effet miroir, tu vois, entre les deux, quoi, entre les deux personnages. Mmh. Et qui revient aussi, notamment à travers leurs enfants, ils ont tous les deux une petite fille, enfin, celle de Duval, elle est morte, tu vois, justement, donc il y a toujours un parallèle entre les deux. Mais moi, j'aime beaucoup ce personnage, en fait, qui en prend plein la gueule pendant tout le film et qui reste toujours profondément bon. Et avec une idée de son métier qu'il essaie de maintenir malgré tout, quoi, tu vois, quoi, jusqu'au final.
Alors, c'est vrai. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi sur le personnage et je suis assez d'accord avec toi sur la performance de Robert Duvall. Après qu'il a quand même qui est quand même dans les clous, hein, par rapport à ce qu'il sait faire. Hein, c'est un truc qu'il a à cette époque-là, en tout cas, c'est ce genre de personnage-là qu'il pouvait jouer. Hein. Mmh. Mais en fait, alors c'est peut-être là aussi où il y a un petit souci, il faut peut-être le préciser. Encore une fois, c'est un film qui date de 93 et c'est un film de studio. Et les films de studio à cette époque-là, en fait, ils étaient, alors c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais de manière complètement différente, ils étaient pointés en fait avec des mémos, quoi. Et je pense que le fait que, par exemple, si tu veux, il envoie chier sa femme, littéralement dans le film à un moment donné au téléphone, dont il est très amoureux, hein, et qu'il présente vraiment comme la femme de sa vie et comme la personne avec laquelle il est prêt à partir à l'autre bout du pays pour prendre sa retraite. En fait, le fait qu'il l'envoie chier, en fait, t'as l'impression que c'est une note de producteur qui dit attention, il va passer pour une savonnette, en fait, si on lui fait pas ça. Et en fait, le truc, c'est que il y a quelques notes comme ça, tu sens qu'il y a quelques notes avec lesquelles le réalisateur ou l'équipe, en fait, la production, en fait, s'est accommodée pour passer en fait les problématiques de studio, quoi. Et ça en fait partie. C'est un des trucs que je trouve qui dénote un petit peu dans le film, parce que justement j'ai jamais eu vraiment cette impression là qu'il en voulait à sa femme, malgré parfois le comportement un peu trop exigeant qu'elle avait vis-à-vis de lui, quoi.
Il lui en veut pas. Moi,
non, mais à ce moment-là, c'est quand même une scène un peu, tu vois, maintenant tu te tais, tu me ramènes à bouffer. C'est quand même super bizarre comme passage. Quand tu compares avec le reste du film, quoi.
Moi,
le reste du film, la façon dont son personnage est traité dans le reste du film, je veux dire.
Ouais. Moi, je vois pas la note de studio, là, tu vois. Je trouve encore que le personnage est dans sa trajectoire. C'est-à-dire, c'est un personnage qui, pendant tout le film, on comprend que, à cause du deuil de leur petite fille, il a accepté de porter tout ça sur ses épaules et de ménager sa femme au maximum parce que c'était son boulot de mari, quoi. Voilà. En faisant ça, on voit qu'ils se sont rendus malheureux, quoi, tous les deux, quoi. Lui, en quittant son boulot et en étant la risée de ses collègues, elle en somatisant chez elle, enfin en devenant complètement névrosée même, tu vois. Et en fait, à la fin du film, Il y a une touche d'espoir là-dessus, et d'ailleurs elle le prend plutôt bien, la manière dont il lui répond, tu vois. C'est-à-dire elle arrête sa crise d'hystérie, tu vois. Et lui, après, ce qu'il va faire à la fin du film, c'est en fait il va pas partir à la retraite, quoi. Donc c'est une manière un peu pour le personnage à l'échelle de tout le film, je trouve, de prendre son destin en main. Et de se sortir de la merde dans laquelle il baignait. Contrairement, voilà, encore une fois, c'est le parallèle qu'il y a avec Defense, avec le personnage de Michael Douglas. Hein. Mais bon.
Oui. Après, moi, je trouve que ça atténue un petit peu justement le côté un peu bonne poire du personnage, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, je pense que ça aurait pu être fait. On aurait pu avoir cette scène, hein, mais faite un petit peu plus. J'ai encore utilisé le mot, hein, subtilement, peut-être. Mmh. Mais très bien. Du coup, en fait, mine de rien, le gros avantage de revoir un film comme ça aujourd'hui, c'est de se dire que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je pouvais éventuellement considérer comme des potentiels défauts aujourd'hui, je pense que c'est à tout le moins ce qui permet en fait, au film de rester encore aujourd'hui derrière 30 ans après. C'est que justement, ça sort un petit peu du cadre des films de Vigilante. Nous, c'est un genre qu'on aime bien. Mais c'est vrai que c'est un genre qui a été utilisé comme ça a été un genre d'exploitation à l'époque, hein, dans les années 80. Je veux dire, voilà. Et du coup, je pense qu'eux-mêmes, à l'époque, ne voulaient vraiment pas s'inscrire automatiquement dans ce genre-là. Du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans après, ça reste comme un vrai film de société qui a pris le pouls, en fait, de la société à un moment spécifique. Il y a fort à parier que c'est le film pour lequel les gens se rappelleront de Joel Schumacher
et de Michael Douglas aussi, je pense, parce que je pense que il y aura aussi Basic Instinct et Liaison Fatale, forcément, mais je pense, moi je sais, quand j'étais étudiant, j'avais le poster dans ma chambre, mais rien que cette image là, elle était iconique, quoi, tu vois, quoi, de ce type en costard cravate avec son attaché case, un fusil à pompe, et puis debout au milieu du barrio là, tu vois, quoi, perché sur un tas de béton avec les immeubles de Los Angeles sur la ligne d'horizon. C'était fort comme visuel. Déjà, tu voyais ça, tu dis ouais, qu'est-ce que c'est, quoi, j'ai envie de le voir, quoi. Non, je pense que voilà, c'est un film qui, pour toutes ces raisons-là, effectivement, a marqué la culture populaire et a perduré jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça restera sans doute le grand fait de gloire. D'ailleurs, il est salué comme ça. Hein. Je vois depuis hier que ou avant-hier, que la mort de Joel Schumacher a été annoncée, le film revient beaucoup, quoi.
Oui, le film revient beaucoup. Après, il y a des gens même qui disent qu'il faut remettre sa carrière en perspective, justement, à l'aune de Chute Libre, de L'Expérience Interdite, de Génération Perdue, plutôt que de Batman, plutôt que ces deux Batman, hein, sur lesquels lui-même, il était déjà d'ailleurs assez critique, hein, notamment Batman et Robin. Hein.
Ah, il s'était excusé.
Oui, voilà, c'est donc voilà, quoi. Mais très bien. Donc voilà. En fait, tu recommandes de revoir Chute Libre.
Ah oui, moi.
Écoute, moi aussi, hein, mine de rien, malgré toutes mes réserves autour du film, je pense que c'est quand même un film vraiment intéressant à voir ou à revoir aujourd'hui, quoi. Donc, mais je pense que la plupart de nos auditeurs ont déjà commencé à, enfin, l'ont déjà revu depuis, quoi.
Oui, très certainement.
Voilà. C'est le film que tu te refais en général quand tu perds un artiste. C'est ce genre de film-là que tu te refais, quoi.
Ou alors quand il y a ton boulanger ou ton banquier qui t'a fait chier, quoi. Tu te refais le film.
Oui. ouais, voilà. Ouais. Bon, ça marche. Merci Arnaud.
Merci à toi, Steph.
Et puis moi, je vous dis merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux habituels, SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, pardon, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. T'as un Twitter, Arnaud? Non, toi, t'as Facebook.
Non, mais non, moi, j'ai... comment ça s'appelle, là? Je me rappelle plus le nom. C'est pas grave. Je me rappelle plus le nom de cet ancien réseau social.
Militant. D'accord, merci Arnaud, et
merci à
la prochaine.
À bientôt.